LMB espère se consoler avec une médaille de bronze.
Merci Christophe Jousset, en direct avec nous, Diaoundé, avec les moyens techniques de Denis Chastel. Petite finale donc pour Kina Cameroun aujourd'hui à 19h, temps universel.
Radio G 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
le début des XXe siècle. Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé
« Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Chers auditeurs, aujourd'hui nous allons vous lire une nouvelle de Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, vous connaissez peut-être. C'est d'abord un grand voyageur. Il a traversé l'Himalaya à pied, il a rejoint l'Inde à travers l'Himalaya et les steppes de l'Asie centrale en venant de Yakoutsk en Russie. Il a passé, vous le savez, 6 mois en Sibérie. Je n'évoquerai pas ici tous ses exploits. C'est aussi un escaladeur de cathédrales. Il a escaladé Notre-Dame de Paris, de Mont-Saint-Michel et encore d'autres églises de cette hauteur. C'est donc quelqu'un qui porte la philosophie du voyage en lui. Et voici une citation de Sylvain qui parle du wanderer, c'est-à-dire du vrai promeneur. Seuls peuvent vivre comme le vrai wanderer ceux que nul lien n'attache, capables de répondre à l'appel du dehors sans accorder un regard à ce qu'ils abandonnent. Telle est donc la philosophie de Sylvain Tesson, mais c'est aussi un écrivain, soit qu'il consigne par écrit ses voyages dans des journaux, soit qu'il écrive aussi des nouvelles. Il a eu le prix de la Goncourt de la Nouvelle en 2009 pour Une vie à coucher dehors et le prix Médicis en 2011 pour Dans les forêts de Sibérie, qui a connu un immense succès. Voici donc aujourd'hui la nouvelle qui se passe en Géorgie et qui s'appelle L'asphalte.
Salaud.
On entendait tinter les bouteilles longtemps avant d'apercevoir le livreur. Chaque soir, la scène était la même. Edolphus se rangeait pour laisser passer le camion et se protéger le nez avec son foulard. Mais la poussière lui fourrageait les muqueuses et lui laissait un goût d'emplâtre dans la bouche. Il toussait, crachait, s'étranglait. Un filet de bave brunie lui coulait dans la barbe. Alors il insultait le livreur. La piste, sa vie. On ne pèse pas grand-chose sur cette terre lorsqu'on en est réduit à gueuler contre la poussière. Il fallait 30 minutes à Edolphus pour rentrer des champs jusque chez lui. Il habitait une maison de bois dans le centre du village. L'été, il faisait la route avec la faux sur l'épaule. L'hiver, avec la bêche. Il marchait doucement. Son cœur nécrosé par le tabac et l'eau de vie de prune ne battait pas assez fort pour les longues foulées. Il avait 50 ans et le corps en ruine. Le village de Tsalka était construit au bord d'un lac, à l'abri des ondulations de collines. Sol volcanique, alpage bien vert. Les éboulis de lave au sommet des crêtes s'épandaient dans le pli des versants. Les prairies avaient recouvert les coulées. L'été, les fleurs s'ouvraient, appétissantes. Les moutons sentaient qu'ils ne pourraient pas avaler la montagne et devenaient fébriles. Ils mastiquaient furieusement. Les pentes se peuplaient de faucheurs, les bergeronnettes gobaient les insectes à chaque coup de faux. Les fenaisons duraient un mois. Les types aiguisaient leurs lames. Les pierres crissaient sur le métal. Les femmes apportaient des cruchons à col étroit remplis de vin de Calcaissie. Pas un géorgien n'aurait avoué qu'il s'agissait d'un immonde verjus. Le soir, le foin s'entassait sur les carrioles, chaque famille rapportait sa moisson à la ferme. Edolphius n'avait pas de carriole, il s'employait dans le champ des autres. À la fin de la journée, il rentrait à pied, seul. Le soleil dorait les talvegues. Daguerre, quand l'URSS existait encore, Edolphius était allé avec les Komsomol au musée de l'Ermitage à Leningrad. Il avait vu les scènes champêtres des maîtres hollandais. Les toiles baignaient dans la même lumière qu'ici. Mais les villages là-bas paraissaient mieux tenus. Le camion revenait traînant le voile rouge du crépuscule. Edolphius disparaît dans le nuage et jura de nouveau. Les choses ne pouvaient plus durer. Il fallait parler à Yuri. La route qui traversait Tsalka menait à la ville de Batoumi, par le village d'Olyangi. Il fallait supporter 6 heures de chaos pour venir à bout des 100 kilomètres qui séparaient de la mer. Les premiers lacets conduisaient à la forêt. L'air devenait humide. La route serpentait 30 fois. Puis c'était Olyangi. Quelques maisons de pierre noire, levées par les Arméniens au temps des carnages turcs. La piste descendait ensuite le long de la rivière en passant les ponts. 3 heures agréables. On s'arrêtait pour pêcher, on grillait des poissons sur le feu. Du temps des Rouges, la Géorgie était considérée comme le paradis. Edolphius réfléchissait. Il se demandait au nom de quoi Tsalka, son village, n'avait pour desserte qu'une piste de cailloux. Pourtant, l'asphalte gagnait le reste du monde. Même en Afrique, les villes tiraient leur langue noire à travers la brousse. Toute l'humanité, jusqu'au dernier des nègres, foulait le goudron. La modernité s'est penchée dans les campagnes planétaires, mais Tsalka, place forte des irréductibles ratés de Géorgie, n'avait pas le droit d'entrer dans la danse. Ici, on devait continuer à cracher ses poumons dans la poussière et à patauger dans les fondrières. Edolphius devenait mauvais. La Géorgie était une vieille catin affalée au pied du Caucase. Elle s'était livrée à tous, les Turcs, les Russes et même les Grecs étaient venus ici, s'infiltrant par d'étroits défilés. Pourtant, il y avait eu des heures de gloire. Jadis, le Turc avait mangé le pain dans la main géorgienne. D'imprenables forteresses chrétiennes avaient couronné les pitons de l'Anatolie et la croix de Nino avait flotté jusque sur le rivage méditerranéen. Aujourd'hui, le pays ne pesait plus rien. Dans les journaux, on appelait ça le déclin des nations. Il s'arrêta devant une fourmilière. Il le connaissait bien, ce monticule. C'était comme une borne à la moitié du chemin. Il sortit de sa poche une flasque et but une gorgée. La bonne coulée lui flamba la trachée. Il lampa une autre rasade. Cette fois, il sentit l'âcreté du bratch. De la main droite, il tapota légèrement le monticule. Les fourmis s'affolèrent. Quelques-unes grimpèrent sur sa main et lui pincèrent la peau. Il les épousta. Les insectes avaient aspergé sa paume d'acide formique. Il s'envoya le liquide dans la narine droite. Le principe ammoniaqué lui déchira le sinus et il contempla les paupières mi-closes, les colonnes de fantassins coulées de la montagne en vie. Il venait de s'octroyer le shoot du prolétaire.
Même ces saloperies d'insectes circulent mieux que nous.
Il flanqua un coup de pied dans la fourmilière, la petite Babel explosa. Yuri Asfaltashvili présidait la réunion du conseil de la municipalité dans la salle de la mairie. On était en train de débattre du sort de la statue de Staline qui trônait dans un champ de luzerne. Dans le village, des voix s'étaient élevées pour qu'on l'abatte. non pas tellement compter à solder des comptes avec le communisme, mais parce que le zinc valait cher au port de Batoumi. Les membres du conseil écoutaient l'adjoint lire les cours des matières premières parus dans le journal de la veille quand Edolphius rentra.
Silence ! Bande de tarés, faut que ça cesse !
Edolphius avait violemment poussé la porte et le panneau avait claqué contre le mur. La secrétaire du maire réprima un petit cri. Si tu veux dire quelque chose, Edolphius, tu prends rendez-vous avec Anastasia Petrovna. On t'entendra lors du prochain conseil.
Ça ne marche plus comme ça, Yuri. Toute la planète est goudronnée, sauf Tsalka. Nous sommes la risée du monde.
Nous travaillons, nous n'avons pas de temps pour les ivrognes. Fiche le camp !
Il nous faut le goudron. Nous vivons en prison dans ces montagnes.
Le vétérinaire, membre du conseil municipal, avait été champion de lutte à Tbilissi. Il éjecta Edolphus dans la rue. Le faucheur perdit l'équilibre, tomba dans la boue. Deux jarres lui mordirent les mollets. Les édiles refermèrent la porte et ont repris la séance.
« 100 grammes. »«
Dit Edolphius à Tamara. »
Assis dans le coin, il tenait son verre de vodka à deux mains. Le café avait été ouvert en 1950. Il faisait alors office de club de la culture pour les ouvriers de la centrale hydroélectrique. La salle était spacieuse, on y dansait. Après la chute de l'URSS, on n'avait pas retiré le portrait de Lénine. Edolphius le fixait. À cause de l'éclairage blafard, Vladimir Ilitch Ulyanov avait mauvais teint. Les ombres accentuaient ses traits asiates. Il avait l'air d'un bâtard turco-mongol. Dire que lui, Edolphius, avait lu sans débander les œuvres complètes du chef dans une édition russe en 18 tomes. Il aurait bien voulu parler à Tamara. C'était une gentille serveuse, mais la chaîne Hi-Fi encastrée dans le mur à bouteilles crachait de la pop russe. Les tatus chantaient deux Lolitas aux sourcils percés. Le volume de la musique empêchait toute communication. Aux tables voisines, on buvait sans un mot. Il fit signe à Tamara d'éteindre.
« Qu'est-ce que tu veux ? » dit-elle.
« Je veux de l'asphalte !»
Il s'adressa à la table voisine.
« Vous n'êtes pas fatigué de caoter sur la rocaille ?»«
Tais-toi, Edolphus, dit Tamara. N'embête pas les gens !»«
Regardez-vous, vous êtes déjà mort. Le monde entier roule sur du velours !» Et nous, à Tsalka, on est infoutus de faire monter une goudronneuse.
Il jeta la monnaie sur la table et quitta le bar. Quand il eut passé la porte, Tamara remit la radio à fond. Du bar à la maison, il y avait 500 mètres. Edolphius entendit longtemps la musique. À présent, c'était ce taré de Fiodor, star du hip-hop sibérien qui chantait des trucs de dégénéré. Alcool le matin, liberté pour la journée. Ses propres filles adoraient Fiodor. La fuite d'une canalisation avait fait de la rue un bourbier. Il s'englua dans les plaques et réveilla un cochon derrière la palissade d'une maison. Des chiens aboyèrent. Une Volga blanche passa, plein phare, la bougie cla sur sa chemise. Il reconnut la voiture de Piotr, le boucher. L'année dernière, elle s'était embourbée en plein village. Il avait fallu faire venir un tracteur d'Ulyangui pour l'extraire du merdier.
Tu rentres à l'heure des Russes. « Et tu pues !»
Edolphius ne répondit pas à sa femme. Tatiana et Oksana se disputaient une console de jeux vidéo. Il aurait bien voulu un baiser. Il les appela, mais il n'y avait aucune chance contre les écouteurs. Les jumelles d'Edolphius avaient 18 ans et rien à lui dire. Elles rêvaient de la ville, se traînaient dans les journées. La télé leur avait apporté la connaissance du monde. Elles vivaient greffées à l'écran. Elle n'aimait pas l'odeur des champs, redoutait l'obscurité des bois, ne savait pas traire les vaches. Le seul moyen de les arracher à l'abrutissement était de leur donner la possibilité de gagner la ville. Et Edolphius ferait
venir le goudron jusqu'ici pour elle. L'asphalte les sauverait. Tous les adolescents du village vivaient dans l'obsession de Batoumi, l'inaccessible étoile. Là-bas, dans les guinguettes, on faisait rôtir des chachliks devant la baie illuminée où croisaient des tankers pleins de naphte azérie à destination du Bosphore. Les boîtes de nuit grouillaient jusqu'à 6 heures du matin de gens impatients de baiser. À la moindre occasion, les jeunes de Tsalka montaient dans le bus. Ils encaissaient les chaos. Et au bout de 6 heures, c'était la ville, la nouvelle vie. Alors ils rêvaient de s'installer et de ne plus jamais remonter. Pour renverser la tendance, il fallait rabouter Tsalka à son siècle. Jusqu'à l'automne, Edolphius se démena. Le soir, après les travaux des champs, il organisa des réunions à l'école communale. L'instituteur Prentis fut un allié de première heure. Lui aussi savait que les pistes de poussière sont à sens unique. Les enfants les dévalent et ne reviennent plus. Pour les humains, les transhumances sont sans retour. Au début, les paysans boudèrent l'initiative. On crut qu'Edolphius et Prentis visaient un siège au conseil et qu'ils se lançaient dans la brigue. On ne voulait pas de changement. Le maire était corrompu. Son successeur le serait peut-être davantage. Tsalka avait survécu parce que rien n'avait jamais évolué. Ici, on se méfiait des agitateurs. Lorsque la dissidente politique Anna Pugachavili avait été assassinée sur le seuil de son appartement, on avait murmuré qu'elle l'avait cherchée. Dans le voisinage, les choses étaient semblablement endormies à l'ombre des volcans. Il y avait de petits villages à moins de 3 km qui se partageaient trois communautés, les Grecs, les Arméniens et les Azéris. Ils étaient reliés les uns aux autres par des routes pavées de galérons. Enfer pour les autos, cauchemar pour les cyclistes. Les Arméniens haïssaient les Azéris, qui haïssaient les Grecs. La haine tenait tout le monde dans l'obligation de vivre tranquille. Sinon, c'était la mort. Artémis, patronne du magasin numéro 2, le seul commerce subsistant à Tsalka, depuis la faillite des magasins numéro 1 et numéro 3, réussit à toucher les villageois au seul endroit sensible chez les velléitaires, l'amour propre. Elle se présenta un soir à l'école. La salle de réunion était presque vide. Elle déclara tout de go son soutien au bitume. Elle avait toujours déploré que le camion livreur ne vint pas plus souvent la ravitailler. Le grossiste de Batoumi à qui elle passait ses commandes rechignait et envoyait ses commis sur la piste de Tsalka. Il ne voulait pas bousiller les châssis de ses camions pour approvisionner les stocks de bouseux des montagnes. Le commis avait confié à Artémis qu'en ville, on les appelait comme ça. Elle répéta ces mots à Edolphius qui sauta sur l'insulte pour rallier des ouailles. L'instituteur aidant, il rédigea un placard. Les deux hommes passèrent une nuit entière à enclouer 150 sur les palissades du village. Le tract s'adressait à ceux qui ne veulent pas rester débouzeux. Suivait une vingtaine de lignes lyriques exhortant les habitants du village à noyer dans le goudron l'injure de ceux du bas. L'appel sommait les citoyens de Tsalka de se joindre aux réunions. Il fallait peser sur le gouvernement de la région. L'affront piqua les gens. Le tract eut un effet électrique. Le lendemain soir, il y eut affluence à l'école. Chacun s'appropria le souhait de goudronner la route. Chacun avança une justification personnelle. L'infirmière parla la première. Le bourbier qui recouvre la rue principale au printemps est un cloaque. Les jumelles d'Edolphius furent magistrales. Elles énumérèrent les perspectives qu'ouvrirait le raccordement à la ville.
Tsalka échappe à son destin en restant isolée, dit Atania.
Des deux, Oksana fit la plus belle impression. Elle venait d'écouter un débat télévisé et n'eut qu'à répéter les paroles d'un député d'Abkhazie qui noyait le poisson devant les caméras.
Il est temps d'accorder le pouls de nos campagnes au battement de la mondialisation. Les générations futures nous béniront d'avoir rétréci le pays.
Tsalka ne peut échapper à la marche du siècle, renchérit Edolphius. Seules les voix de Siméon, le plus riche éleveur du village, et d'Hilarion, le pope, aux boucles noires discordèrent. Nous disposons d'une chance unique. La situation de Tsalka nous préserve des agressions extérieures. Goudronner
et la chienlit rampera jusqu'à nous. » Il a raison, dit Hilarion. La piste est notre rempart. On les hua. Eudolphus et Prentis rédigèrent une supplique au nom des villageois. Lorsque le maire se rendit compte qu'il ne se tramait aucune manœuvre contre lui, il rejoignit le mouvement. Puisque l'unanimité régnait, il ne s'opposait plus au goudronnage. Le dimanche suivant, le texte était prêt. Eudolphus le lit à haute voix. C'était l'appel au secours, pudique, émouvant et légèrement ridicule, d'un petit village qui ne voulait pas disparaître. Comme l'homme tombé en mer, les habitants de Tsalka agitaient la main pour que l'équipage ne les abandonne pas. Eudolphus avait filé la métaphore du sauvetage jusqu'à comparer la route de goudron à la corde qu'on jette au noyé. Le texte précisait que le village était d'une beauté profonde, adossé à un amphithéâtre glaciaire planté d'une vieille église à toit octogonal, et qu'il y aurait matière à faire grimper des touristes jusque-là. Le gouverneur à qui l'on s'adressait s'adonnait à l'économie de marché. Des Azéris enrichis dans l'industrie pétrolière et des Turcs aux doigts poilus, commerçants de Trébizonde et notables d'Erzurum, venaient parfois chercher neige et chair fraîche dans les montagnes du Caucase. Il serait simple de faire de Tsalka une station d'altitude. Les forêts de sapins offraient du bois pour les chalets. Les villages regorgeaient de matrones capables de farcir les choux pour revigorer les skieurs. Mais ces perspectives réclamaient l'asphalte. Le maire signa l'appel et apposa le cachet de la municipalité. La requête était devenue officielle. On convainc qu'Eudolphus la porterait lui-même le surlendemain par l'autobus qui assurait la liaison avec la ville. Les travaux commencèrent au mois de juin. La demande des habitants de Tsalka déposée au secrétariat du gouverneur de Batumi avait été considérée avec beaucoup de sérieux par l'administration. Le document était arrivé sur le bureau du gouverneur après avoir gravi divers étages et atterri sur des tables d'où certains papiers ne redécollaient jamais. Cette année-là, le gouvernement ne se préoccupait pas davantage qu'avant du bitumage des routes du pays. Mais l'État venait de signer avec une compagnie pétrolière américaine un contrat autorisant le passage d'un pipeline à travers le territoire national. Les termes de l'accord engageaient les pétroliers à remédier au manque d'infrastructures sur le tracé de l'oléoduc. L'asphaltage de la route de Tsalka fut ainsi intégré au vaste programme de réfection de la voirie géorgienne. Pour la première fois de sa vie, Eudolphus s'était trouvé au bon endroit et au moment propice. Les ingénieurs nivelèrent l'ancienne piste. Le rabot des machines lissa une rampe de terre. Les ouvriers coulèrent un socle de graves bitumeuses et de débris de roche en guise de soubassement. Commença le lent feuilletage des couches destinées à la stabilisation de la chaussée. Eudolphus s'intéressa à l'ouvrage, s'impatronisa dans le roulement des équipes, se lia avec les contremaîtres. Par amitié, on lui confia une menue tâche dont il s'acquitta avec un sérieux de planton. Il devait réguler la circulation sur la demi-bande de piste que le chef de chantier laissait ouverte aux véhicules. Il était muni d'un gilet réfléchissant, d'un casque et d'un panonceau de bois frappé des quatre lettres STOP. Il s'écoulait parfois 3 jours sans qu'aucune voiture passe. Eudolphus restait debout, stoïque, scrutant l'horizon rempli de sa mission. Lorsqu'un véhicule approchait, il brandissait le panneau d'un geste autoritaire et gueulait « Stop !» En faisant rempart de son corps, le conducteur ouvrait la fenêtre, le gonard et le goudron. « Alors, mon vieux, il arrive !» Et le goudron arriva. Une fois ajoutée la chaux à la couche de forme, on versa le béton bitumeux et l'asphalte. La coulée partit de Batumi et monta vers Tsalka. Elle conquit les kilomètres un à un. Le rouleau compresseur aplanissait la nappe et Eudolphus pensa à ce pâtissier juif de Tbilissi qui lissait la crème de ses strudels avec un couteau à large lame. Eudolphus trouva superbe cette glaçure noire qui fumait dans la froidure. L'odeur du goudron brûlant macéré dans les seaux de bois le galvanisait. Le fumet du progrès avait un goût de chair brûlée. Le camp des ouvriers était établi au piémont du massif, juste au commencement de la serpentine.
dans les baraques en tôle chauffées par des poêles à bois et éclairées par des groupes électrogènes, il régnait chaque soir une atmosphère joyeuse. On partageait le khatchapuri, le vin rouge et les souvenirs des années soviétiques. Ce chantier fut montré en exemple dans le pays comme un modèle de sécurité. Pour 100 km d'asphaltage, on ne déplora que 3 incidents. Un ouvrier à court de vodka s'était perforé l'intestin en avalant de l'antigel pour fêter le premier kilomètre. Un autre avait parié qu'il garderait son pied le plus longtemps possible sur la chaussée au passage du compresseur et gagna son pari. Enfin, on retrouva le cadavre d'un contremaître à bord d'une pelleteuse retournée dans la rivière. Il l'avait emprunté une nuit de cuite pour chercher des provisions. Il y a toujours sur la route de Tsalka un petit monument votif construit en sa mémoire. L'asphalte atteignit Tsalka le 21 juin. La date était de bon augure. Les dieux géorgiens organisaient le raccord en plein solstice. Le maire parla la nouvelle été pour le village. Il conclut son discours en citant le traité sur les goudrons et les sables bitumeux de l'URSS de Pavel Nevski. L'asphalte tiré des profondeurs de la terre pour en recouvrir la surface est un présent qui nous est offert par le temps pour que nous nous affranchissions de l'espace. Un tonnerre d'applaudissements salua cet éclair auquel on ne comprit rien. On avait invité les ingénieurs de Batoumi, les pétroliers du terminal de Tsoupsa, qui avaient participé au financement du gros œuf, les députés de la région et le maire de Tbilissi. La route de Tsalka était devenue un symbole d'État. Les journaux favorables au gouvernement se félicitèrent d'une entreprise qui hissait un village géorgien sur l'estrade où se dansait le tango de la mondialisation. Les communistes hostiles à l'ouverture européenne s'indignèrent que des capitaux anglo-américains irrigassent le développement géorgien et déplorèrent que les roues des Volgas se commettent sur un bitume moins noir que les dessins de ceux qui les financent, pour reprendre l'expression du rédacteur d'une feuille stalinienne. La chaîne de télévision numéro 1 filma la cérémonie du 21 juin. Un journaliste dépêché de Tbilissi intervieva Edolfius. La fanfare joua des airs de Mingrelli et, malgré les réserves prévues par l'intendance, il n'y avait plus de saucisses à 16 heures. On faillit même manquer de vin et le maire dut avancer cash $250 à la tenancière du café pour qu'elle crève 5 fûts afin d'éviter la pénurie. Seul le pop Hilarion resta sur ses positions. Il ne se joignit pas aux réjouissances, resta devant l'icône, puis sonna le glas au moment où le cœur de l'école entamait sur le podium l'hymne au goudron composé par l'instituteur. Tsalka la morte ressuscitée grâce au goudron qui nous emporte. Tsalka dormeuse revigorée grâce à l'asphalte qui nous épate.
L'asphalte possède des propriétés darwiniennes. Son épandage modifie les comportements des groupes humains. Les villageois raccordés au reste du monde par le goudron rattrapent en quelques mois leur arriération. Tsalka connut cette accélération. Après 2 semaines, les rues étaient méconnaissables. Edolfius avait comparé l'asphalte à un cordon ombilical. C'était plus que ça. Une aorte qui pulsait les murs d'en bas jusqu'à la lisière des alpages. Les enseignes lumineuses fleurirent, des paraboles poussèrent dans l'encadrement des fenêtres. Un jour, Tamara accrocha une pancarte « Internet haut débit » sous le portrait de Lénine. Dans les vitrines apparurent des produits dont on avait à peine soupçonné l'existence et qui s'avérèrent indispensables. Des dessous féminins, des aquariums pour poissons tropicaux et des vélos d'appartement. Un panneau Pepsi-Cola clignota sur le fronton de ciment de l'arrêt de bus. Certains villageois prirent des habitudes à la ville. D'autres y tinrent leur quartier. Le trafic était incessant. Les jeunes descendaient à Batoumi pour le week-end et rentraient le lundi au village. Les femmes y faisaient leurs courses le samedi. Et Dolphius ne toussa plus sur le chemin des champs. Pendant quelques jours, il conserva le réflexe de se courber en portant son mouchoir à la bouche quand une voiture le croisait. Puis, il cessa de le faire. Le flux des déplacements s'inversa au milieu de l'été et on vut bientôt davantage de gros cylindrés monter vers le village que de vieilles bagnoles descendre vers le littoral. Le bruit avait très vite couru dans les quartiers cossus de Batoumi qu'un havre verdoyant niché au creux d'un vallon se trouvait à portée de volant. Les citadins s'aventurèrent dans les hauteurs. S'enhardir au village, la pharmacienne ouvrit la première chambre d'hôte et bientôt, sur le pas des portes, on afficha les tarifs pour des séjours chez l'habitant en pension complète. À la mairie, on commença à envisager la construction d'une remontée mécanique. À l'automne, vint le premier étranger, un Américain mormon qui portait l'arrêt au milieu et une chemise blanche. Il tomba amoureux de la serveuse Tamara et n'essaya plus de convertir qui que ce soit. L'asphalte amenait du sang neuf. Salka vivait enfin. Les jumelles des Dolphius consumèrent leur semaine en aller et retour. Tatiana trouva un emploi à Batoumi, au Galant, un bar du bord de mer pour géorgiens enrichis. Du vendredi soir au dimanche, elle servait des margaritas à des nouveaux Russes et des businessmen de Tbilissi qui portaient tous des chaussures vernies à bout carré et des boutons de manchette en verre. Elle avait des yeux violets et une façon de porter ses mini-shorts qui rendait fous les clients. On aurait cru que le contact du tissu sur sa peau lui était intolérable. Bustan, un affairiste de 33 ans, enrichi dans l'export du nickel, passa 5 week-ends de suite à la manger des yeux et la fit passer de l'autre côté du comptoir le 6e. Il se faisait servir du veuf Cliquot directement dans le seau et roulait dans un Hummer blanc, crème. Tatiana ne comprit jamais pourquoi le négoce en nickel justifiait qu'on circulât avec un 45 dans le vide-poche et un gorille à lunettes noires à l'avant. Mais elle ne posa aucune question, car Bustan était gentil avec elle, ce qui détonnait dans le merdier post-soviétique où les mecs ne s'intéressent qu'à la chatte des filles et leur parlent comme à des chiens. Un lundi matin d'automne, Bustan vint à Tsalka, le jeune businessman rencontra Dolphius et offrit des lys roses à la mère de Tatiana. On apprécia le jeune homme, bien qu'on lui jugeât les mains douces et l'allure trop grasse. Il n'avait jamais vu de cochon en vrai et la porcherie qui jouxtait l'ancien club de la culture imprima dans sa mémoire et sur le cuir de ses berloutis une indélébile impression. Il revint à la fin de la semaine suivante pour chercher Tatiana et peu à peu l'habitude s'installa. Il arrivait le vendredi soir, emportait sa paysanne, la baisait pendant 2 jours face à la mer et la reconduisait au village le lundi matin. Autrefois, la piste contraignait d'aller lentement. On connaissait chaque pouce carré du paysage. On n'y déplorait jamais d'accident. On avait tout le temps, on n'avait pas le choix. Sur l'asphalte, flambant neuf, c'était différent. Tout le monde fonçait, ça chauffait le sang. L'accélérateur vengeait les villageois de décennies de chaos. Certains d'entre eux étaient pris de rage. Moins ils étaient occupés et plus ils mettaient les gaz. Les purs oisifs étaient les pires. Ils s'acharnaient à quitter le plus vite possible des endroits où il ne se passait rien pour rallier comme des fusées des lieux où ils n'avaient plus rien à faire. Bustan chronométrait ses allers-retours entre la ville et Tsalka. Le Hummer n'était pas la machine la plus appropriée pour exploser les records, mais il était descendu jusqu'à 46 minutes et comptait améliorer le score. Tatiana n'avait jamais vu d'accident. La vitesse ne l'émouvait pas. Elle réussissait même à se vernir les ongles des deux pieds pendant le temps du trajet. Le drame eut lieu un vendredi d'octobre, 4 mois après l'inauguration. Le Hummer rugissait vers Batoumi. Ce soir-là, Bustan était parti pour descendre sous la barre des 45 minutes. Il avait passé les lacets, il pourrait encore accélérer une fois atteint le fond de la vallée. Il tarda à se ranger dans le dernier virage, juste avant le pont, et écrasa son véhicule contre un camion qui montait en sens contraire. Il n'y eut même pas la place d'une seconde pour un coup de frein, un réflexe ou un dérapage. Les corps furent éjectés. Personne ne souffrit. L'écho du fracas emplit le sous-bois pendant une dizaine de secondes et le silence revint. Les carcasses de tôle fumaient, les plaies des corps aussi. Tatiana gisait sur le goudron, les plis de sa robe rouge soulevée par la chute étaient retombés en se déployant comme une corolle autour de sa taille. Des pétales sur la route, pensa le médecin en arrivant une heure après avec l'équipe de secours. Adolphus fut à peine étonné que la voiture de flic se range contre son champ. Les miliciens aimaient sa compagnie. Il passait parfois boire un verre chez lui. Le sergent monta sur le remblai de la parcelle.
« Tu t'en jettes un ? J'ai une bouteille dans le sac. »«
Adolphus, il y a eu un accident mortel, » dit le sergent.
« Où ?»«
Au kilomètre 65, juste avant le pont. »«
Grave ?»«
Mortel, je te dis. »
Adolphus ressentit une petite contraction à la poitrine.
« Qui ?»
Ta fille, Tatiana, elle est morte sur le coup. Le corps est à Batoumi. Il sera porté au village tout à l'heure.
Le cadavre de Tatiana arriva à 9 heures du soir dans un fourgon de la milice. On l'installa dans la chambre des jumelles. Les voisines déshabillèrent la jeune fille et la vêtirent d'une aube blanche. Le visage avait déjà la couleur des bougies. La pharmacienne partit cueillir du millepertuis dans son jardin. Le frère d'Adolphus, l'instituteur, Tamara et son mormon, le sergent, le maire, les proches et les voisins se pressaient dans la maison. On s'attaquait aux formalités, on remplissait les papiers. Les morts compliquent la vie. On convint d'obsèques pour le dimanche suivant, ce qui laissait 48 heures pour veiller le corps. La mère était prostrée dans un fauteuil, les paupières déjà violettes au bout de 2 heures de chagrin. Oksana s'était enfermée dans la chambre de ses parents et refusait d'ouvrir. Sur le perron, Adolphus s'abrutissait de cognac. On s'écarta pour laisser entrer le pop Hilarion.
« J'avais prévu ce qui est arrivé. Cette route est la langue du démon. Tatiana est la martyre de l'asphalte. Prions. »
Il bénit l'assemblée, les femmes et les hommes se signèrent. Commencèrent les lentes litanies de l'office des morts de l'église géorgienne autocéphale. À 11 heures du soir, quelques-uns s'inquiétèrent de préparer le souper. La mère pleurait toujours. On la laissa se vider par les yeux et la sœur d'Adolphus alla chercher une dame Jeanne de 20 litres de vin rouge, du pain et un jambon dans la réserve de la famille. On organisa des tours de garde pour se relayer alternativement autour du corps et du jambon. À minuit, on s'aperçut qu'Adolphus n'était plus sur le perron. Le sergent l'appela dans la nuit. 27 chiens se réveillèrent et hurlèrent en même temps. Adolphus identifia immédiatement l'endroit. À la lueur des phares, les services de la voirie avaient déblayé la route, mais il restait des débris de tôle sur les bas-côtés. Des troncs et des branches cassées traçaient des zébrures claires dans l'épaisseur de la forêt. Des débris de verre scintillaient sur l'accotement. Il contempla cet endroit où il était passé des centaines de fois. Le cognac l'abrutissait, mais il conduisait la pelleteuse d'une main sûre. Il avait tellement observé les ouvriers que la machine n'avait plus de secret pour lui. Il n'avait pas eu plus de difficulté à la démarrer qu'à l'amener jusqu'ici. La pelle sur pneu, américaine,